nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Laissez, non. Ça va très bien, je lui demande. Vous vivez seul? Non, je vis avec ma mère, qui est veuve. Mon père était chirurgien. Il est mort au cours d'une de ses expéditions africaines. Il a attrapé une de leurs maladies. J'ai perdu mon père à l'âge de 9 ans. S'entendons bien, ma mère et moi? Elle est fière de moi. Je me demande bien pourquoi. Elle me traite comme si j'étais un tout jeune petit garçon. Ou comme un ami. Ça dépend des jours. Mais je crois qu'elle est amoureuse de moi. Et que toutes les veuves jeunes qui restent avec leur fils unique, je souris et lui dis. Elle ne peut faire autrement que de vous aimer. Henri, en étant près de vous, c'est impossible de faire autrement. Vous êtes si beau. Sylvain sourit et lui dit « Merci ». C'est presque une déclaration d'amour. On entend toujours le bruit de la soirée. La pièce est presque dans la pénombre. À part la lumière de la lampe du bureau, qui est presque rouge et qui est près du visage de Sylvain. Jules est quasiment dans le noir. Jules se sent bien et aimerait que ça dure éternellement. Ses beaux yeux bleus profonds qui le regardent avec une telle douceur. Sylvain lui demande « Et vous, Je lui dis, moi, rien. J'ai une famille étouffante, avec des tas de problèmes affectifs. J'écris et voilà tout. Pas de fiancé? Non, et vous? Moi? Non, mais j'aimerais bien. Jules a mal et a peur qu'on lui enlève. Il lui dit, avec un si joli visage, ce doit être facile pour vous. Sylvain sourit et lui dit, arrêtez de vous moquer de moi. Je vais finir par croire que vous me trouvez niais. Je vais finir par me croire ridicule et avoir honte de ce que je représente. Je vais me cacher dans un trou de serrure. Remarquez que vous n'êtes pas le seul à me prendre comme ça à cause de mon physique. Certains jours, j'aimerais avoir 30 ans de plus et avoir des rides pour qu'on me prenne au sérieux. C'est vrai, ça. Vous vous rendez compte? Je peux vous dire des choses? N'importe quoi. Vous vous rendez compte? Mais j'ai honte à mon âge. Je suis sûr. Je suis sûr de rien. Je ne fais rien à 23 ans. Je souris et lui dis, restez comme vous êtes. Moi je donnerai tout pour que je reste comme vous êtes. Et il lui dit, mieux. Il se dit en lui-même. Mieux pour voir mon petit ange toujours avec moi. Sylvain lui dit, vous moquez, ma maladie m'empêche de faire mon armée. Heureusement que si, parce qu'autrement, avec ce que j'ai, on se serait moqué de moi et pris pour une mauviette. Jules se dit, il est comme les jeunes, il veut jouer les mâles. Tout à coup, la porte s'est ouverte. Jules se retourne et voit avec tristesse arriver Apolline. Elle est en robe du soir blanche, belle comme une apparition. Elle leur dit, pardonnez-moi, je ne savais pas que vous étiez là. Je voulais me reposer un peu. Toutes les pièces sont prises, même les salles de bain. Les deux garçons se lèvent et leur dit, non, c'est bien, je vous laisse. Sylvain lui dit, non mademoiselle, c'est nous qui allons nous retirer et vous laisser. Ou c'est moi qui vais me retirer, bien au contraire, et vous laisser avec le fils de la maison. Elle lui répond, oh surtout pas. Surtout pas. Je suis sa sœur, restez. Je reste si vous restez. Je lui présente Monsieur Sylvain Dupin, fils d'une amie de la mère. Ma sœur Apolline. Elle s'approche d'eux. Enchantée. Elle lui dit, bon, asseyons-nous. Et ils s'assoivent. Elle s'assoit dans le troisième fauteuil. Et leur dit, il y a tellement de monde que ça donne mal à la tête. Et vous, que faisiez-vous ici? Je lui réponds, j'achois un endroit tranquille pour parler. Sylvain lui demande, vous écrivez vous aussi? Non, en ce moment, je ne fais rien. J'aurais aimé, c'est faire du théâtre. Mais je n'ai pas pu. Et puis, il paraît qu'une fille de bonne famille doit attendre d'être mariée. Vous avez un fiancé? Moi? Oh non! Elle s'est tirée et dit, vous avez des cigarettes? Il la regarde et elle dit, vous n'avez rien, ni à boire? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Elle se lève et dit, je m'ennuie. Elle se lève et marche pour faire quelques pas. Et dit, je suis l'être le plus immoral qui soit, et grâce à ma famille, tout entre dans l'ordre. Je lui dis à Sylvain, ne faites pas attention, elle est nerveuse. Elle leur dit, pourquoi dis-tu ça? Je sais trop bien. De toute façon, tout fout le camp. Je suis malheureuse parce que personne ne m'aime. Et puis, je n'aime personne d'ailleurs. Je lui dis, arrête, c'est indécent. Demain, tu devras aller voir le docteur. Elle s'arrête de marcher et dit à Sylvain, ah oui, le docteur, le brave docteur. Comment déjà Perrier? Vous connaissez? Sylvain dit, non, pas du tout. Eh bien, c'est un brave docteur qui me soigne. Il me connaît depuis que je suis toute petite. C'est lui qui m'a fait naître. Alors, bien sûr, la famille veut que je me fasse soigner par lui. Homme de grande distinction. On ne dirait pas à le voir qu'il est un peu bizarre. Mais au fait, est-il bizarre? Ou est-ce que tous les hommes le sont? Je lui demande. Pourquoi dis-tu ça? Il lui répond. Pour rien. Je lui dis. Alors tais-toi. Elle lui dit. Oui, il faut toujours se taire. Et je dois aller bien sagement chez le brave docteur. Sylvain se lève et leur dit. Je vais malheureusement vous quitter. Je le regarde attristé et se dit que c'est la faute de sa sœur s'il part. Par sa faute, son entretien avec Sylvain a été catastrophique. Il lui dit, partez déjà. Oui, il le faut. C'est à cause de notre dispute? Non, absolument pas. Je suis sûr que vous ne voulez plus revenir, que vous avez pensé que nous sommes des fous. Non, pas du tout. Faut que je parte. Ma mère est un peu souffrante. D'ailleurs, c'est pour cela qu'elle a pu venir. Je se lève et lui dit, c'est sûr que vous partez pour ça? Oui, je vous assure. Et nous nous reverrons? Sylvain lui dit, oui, bien sûr, je veux bien. Je lui demande, quand? C'est pas encore, je verrai. Je l'ai triste, Sylvain lui dit. Bon, eh bien, je dois vous quitter. Le frère et la sœur le guident. Avant de sortir du bureau, il leur dit, vous pouvez rester, je connais le chemin. Je lui dis, non, nous allons vous accompagner. Et ils sortent du bureau. Il y a toujours le bruit de la soirée. Descendent les escaliers et retrouvent les invités. La lumière, le bruit, les invités. Les ahuris se faufilent jusqu'à la sortie. Avant qu'ils ne partent, Jules lui demande. Je vais vous accompagner? Non merci, pas la peine. La sœur le prend par les bras, par le bras et lui dit, on dira un ange. L'embrasse sur la joue et lui dit, au revoir petit ange. et merci d'être venu. Il lui dit au revoir et merci. Le Mexico ouvre la porte et il sort. Jules est furieux et dit à sa sœur, par ta faute, il ne viendra plus nous voir. Elle ose ses épaules et lui dit, et alors? Il lui crie, tu t'es comporté comme une petite grue. Qu'est-ce qu'il va penser de nous? Elle lui dit, il pensera ce qu'il voudra. De toute façon, je m'en fiche. Il lui dit, tu es insortable, imprésentable, et aucun homme ne te voudra. Elle ose ses épaules et lui dit, j'en connais un, et j'ai mon docteur. Il lui crie, arrête avec tes bêtises. La mère vient vers eux et leur dit, vous devriez avoir honte de vous chamailler comme ça, devant tout le monde. Je lui dis, tu avais éduqué autrement ta fille. Et il se sauve. La sœur part de son côté, elle aussi. La mère reste seule et se dit qu'ils sont complètement fous. Les jours passent. Le frère et la sœur ne se parlent plus. Apolline a oublié cette scène et le beau jeune homme. Elle est retournée voir le bon médecin et est sous l'emprise de la drogue. Par contre, lui, Jules, pense constamment au beau jeune homme. Il a sans arrêt son visage devant lui. Ce visage qu'il aimerait tant avoir près de lui pour de vrai. La nuit ne peut dormir, il a envie de le toucher, de voir ce beau yeux bleu profond, ses cheveux, cette bouche qu'il désire. Une fièvre folle le fait se masturber en pensant à lui. Mais dans son fantasme qu'il a en se masturbant, il n'y a rien de sale, rien de vicieux, non. Il jouit en voyant son visage, il jouit en voyant ce profil se rapprocher de lui. Il n'a aucune scène érotique, ce qui prouve qu'il est tombé vraiment amoureux. Même ses rêves, où quelquefois il le voit, mais il aimerait rêver tous les soirs à Sylvain. À chaque fois qu'il va s'endormir, il pense très fortement à lui pour pouvoir rêver de lui. Malheureusement, la plupart du temps, il ne rêve pas à lui. Mais les soirs où il rêve à lui, le matin, il est déçu. Il aimerait toujours être dans ce rêve. Le réveil lui est déprimant. Le jour, il a des difficultés à écrire. Et sa nouvelle ne peut l'écrire. À chaque fois qu'il arrive à écrire, c'est pour décrire Sylvain et s'imaginer leur histoire. Les jours passent. Et cela le déprime beaucoup de ne pas avoir de ses nouvelles. Il attend tous les jours une invitation, mais rien. Il ne mange plus, déprime. Sa sœur lui dit, toi aussi tu en manques? Si tu veux, je peux t'en apporter. Il lui répond, toi, fous-moi la paix.
Il va s'enfermer dans sa chambre.
Un jour, il se rappelle que sa mère doit connaître l'adresse où il habite puisque c'est le fils d'une de ses amies. Avoir son adresse. Pendant 2 jours, il souffre de ne pouvoir le demander à sa mère. Il va me demander pourquoi et que lui dirai-je. Et puis, n'y pouvant plus, il décide de lui demander. Il va la voir au salon. Il la trouve assise à lire. Il va vers elle. Souffle un bon coup et lui dit « Mère, j'ai quelque chose à vous demander. »«
Oui, mon fils. »«
J'aimerais avoir l'adresse et du pain. »«
Pourquoi donc ?»
Parce que j'aimerais envoyer au fils un exemplaire de mes nouvelles.
Elle lui dit, mais j'ai déjà fait.
Il lui dit, irrité, mais pas au fils. Je veux lui offrir un de mes livres pour le remercier de m'avoir tenu compagnie pendant la soirée. Elle est surprise et lui dit, bien.
Elle se lève et va à son secrétaire.
Pour y prendre son carnet d'adresse pour voir l'adresse des Dupin, qu'elle marque sur un papier, puis après avoir rangé son carnet, elle retourne vers son fils. Et le lui tend. Oh merci mère, qu'as-tu été si excité pour si peu de choses? Tu penses envoyer un livre? Il rougit et quitte le salon. Il a l'adresse. Il court à sa chambre, la lire. Une fois dans sa chambre, il la lit, embrasse le papier. Il marche de joie. Il se dit qu'il va pouvoir voir son immeuble, sa rue, les gens qu'il croise, entrer dans sa rue. Entrer l'odeur qu'il respire. Puis, entrer dans son allée et qui sait le voir et tout excité, sentir l'odeur qu'il respire, oui, entrer dans son allée, oui. Et dès le lendemain après-midi, il sort pour aller dans la rue de Sylvain. Et tout excité, le papier à la main. Sylvain habite rue Sully. Au fur et à mesure qu'il se rapproche de sa rue, il ralentit le pas, se sent moins sûr de lui.
C'est pas pour acheter, monsieur. Je cherche un emploi.
Il est même gêné d'aller là-bas. La honte et la peur d'être vu par une de ses connaissances, même par Sylvain. Que lui dira-t-il? Pourquoi est-il dans sa rue? Non, il aurait trop honte de cette rencontre. Malgré tout, c'est pas le même Russuli. petite rue calme avec des immeubles et petites maisons bourgeoises. Pendant un moment, sa honte passe et regarde tout avec curiosité et amour. Voilà sa rue, la rue où il est, l'école où il a peut-être été, son école. Les passants qui marchent tous les jours le voient, les arbres qu'il voit, l'air qu'il respire. Car bien sûr, où habite l'être aimé, l'air n'est pas le même que dans un autre quartier de Lyon. Il voit une église, se dit que c'est son église, a envie d'y rentrer pour voir l'intérieur, prend papier pour voir le numéro de son immeuble, numéro 20, cherche le numéro 20 et le trouve, enfin, son immeuble, un petit immeuble cossu du début du siècle, de 4 étages. Il regarde bien la façade et se demande quelles sont ses fenêtres. Passe devant l'allée, mais n'ose pas y rentrer. La porte est fermée, ne peut voir à l'intérieur. Il passe plusieurs fois devant, puis reste un moment pour voir l'immeuble de face. Il est tout ému. Une femme sort de l'immeuble voisin, passe devant lui en le regardant. Cela le fait rougir. Il a honte. Tout à coup, il repense à Sylvain, qui peut la percevoir. Et quelle honte ce serait! Alors il regarde une dernière fois la rue et l'immeuble et s'en va. Il est triste et a l'impression de quitter son chez-lui. Les autres lignes de Lyon lui paraissent étranges. Étrangères. C'est pas sa rue. Il entre chez lui. Une fois chez lui, il se dirige à sa chambre pour penser à tout ce qu'il a vu.
Sa chambre, il s'allonge.
Il est heureux, il sait où il habite, ce qu'il voit, et comme cela, il pourra désormais penser à lui, dans sa rue. Puisqu'il aime Sylvain, il aime cette rue, il aime son immeuble, et se dit qu'il aurait aimé y vivre toujours. Bien entendu, dans cette excitation rêveuse, il ne peut écrire. Ou écrire que des choses sans importance pour les autres. Toute la journée, il pense à cette rue et la garde comme un trésor dans son corps. Lorsque la nuit, il veut à tout prix rêver à Sylvain, il regarde le papier où il y a l'adresse en pensant à lui très fortement. Malheureusement, les rêves sont capricieux. Cela l'énerve. En se réveillant, il se sent de mauvaise humeur. Puis, le doux visage de Sylvain lui revient en esprit. Alors il est pris d'un amour fou. De tout le matin, il ne peut rien faire. Même son petit déjeuner ne passe pas. Sa mère lui demande « Mais qu'as-tu ce matin? Tu es malade ?»«
Moi, non, merci. »
L'après-midi, malgré la peur d'être vu, il a envie d'aller dans sa rue. Il y va, le cœur battant, heureux de voir sa rue. Et comme la première fois, il a honte en y arrivant. Mais il le fait tout de même. Ralentissant le pas, en s'approchant de son immeuble pour le regarder bien, sans s'arrêter. Il aimerait entrer dans son allée, mais n'ose pas. Il fait plusieurs fois sa rue. À la sortie des élèves, il se demande comment il était lorsqu'il était enfant. Il devrait être sûrement beau et sage, comme sa mère a dû avoir la chance de l'avoir toujours près d'elle, le voir grandir, d'apprendre les choses de la vie, le laver, le soigner, lui laver son linge, lui donner à manger. Comme j'aurais aimé faire tout ça, le protéger. Lorsque nous serons amis, je m'occuperai de lui. Il sera heureux, il ne manquera rien. Alors, il se met à rêver à une vie en commun, à deux. Il ne se rend pas compte, tellement son amour est fort, que cette vie en commun ressemble à une vie entre père et fils, sans sexualité, sauf l'érotisme de le voir. Il ne pense même pas à ses parties intimes. C'est un amour idyllique, sans sexe. Il retourne tous les jours à la rue. Il ne peut s'en empêcher. Et malgré lui, c'est comme un acte d'amour. Il se sent plus à l'aise en y allant. Ça le gêne moins. Et puis, il est dans ses rêves. Il sent qu'il commence à faire partie du décor, à la façon dont les gens le regardent et le croisent. Cela lui fait plaisir. Maintenant, il connaît sa rue par cœur. Et son immeuble aussi. Les fenêtres qui restent toujours fermées. Les rideaux que l'on change. Mais aucun indice ne lui dit où est son appartement. Quelle fenêtre est à lui? Tellement il est dans ses rêves que ça ne le gêne plus de ne pas le voir. Il ne se rend même pas compte que l'objet amoureux passe, que ses rêves et son décor le fait revivre. Il ne se rend pas compte que l'objet amoureux est absent de ses rêves, de la réalité. Les jours passent. Cet amour pourrait durer des années. Un jour, il voit sortir de l'allée de l'immeuble une femme. Cela lui donne envie de rentrer. Prenant son courage à deux mains, le corps battant, il va ouvrir la porte d'entrée. La porte s'est refermée avec fracas. Le hall d'entrée de l'allée est de taille moyenne, claire. Les murs blancs, le sol en mosaïque, escalier de pierre. Regarde les noms aux boîtes aux lettres. Vois le sien. François Dupin, deuxième étage. Regarde bien ce nom. Le touche. Et comme il entend des pas dans les escaliers, il se sauve en courant. Pourvu que ce soit pas lui, qu'il ne m'ait pas reconnu. Quelle honte! De temps en temps, il retourne dans l'allée, mais en faisant attention de ne pas être vu. Un jour, il a le courage de monter, en sueur, les jambes tremblantes, jusqu'à son étage. Il voit sa porte barrière, mais redescend de suite. Si la porte s'était ouverte, et que ce soit lui, que lui aurais-je dit ? Malgré tout, il est heureux d'avoir pu voir où il habitait. Les jours passent. Chez lui, il ne parle à personne, et personne n'ose lui parler, car il sent tellement dans un autre monde. On pense que c'est dû à son roman qu'il écrit. Les jours passent ainsi. Il va très rarement dans l'allée de l'immeuble, mais lorsqu'il y va, c'est pour toucher la boîte aux lettres et baiser le nom. Il gonfle d'amour pour ce Sylvain qu'il n'a vu qu'une seule fois, et peut-être lui l'a complètement oublié. Après-midi, qu'il est reçu, marchant, rêvant, sans faire attention à ce qu'il voit, mais tout à coup, sa lucidité vient et lui montre qu'arrive vers lui Sylvain. Il vient droit vers lui, en marchant d'un bon pas, le sourire aux lèvres. Après tout ce temps, il le reconnaît de suite. Il le trouve très beau, plus beau que dans son souvenir. Bien sûr, il a honte et peur. Que va-t-il lui dire ? Il aimerait le voir et ne pas être vu. Il a le cœur qui bat fort. Voilà, il est tout près de lui. Il ne sait que lui dire. Sylvain lui dit : bonjour, quelle surprise ! Je lui dis : oui, quelle surprise, ça fait longtemps qu'on ne s'était vu. Sylvain lui dit, vous me cherchiez ? Je lui réponds, non, pourquoi vous habitez ici ? Oui, dans cette rue, l'immeuble au coin là-bas. C'est vrai, je ne vous avais pas donné mon adresse. Que faites-vous en ce moment ? Rien de spécial, je me cherchais pour me détendre un peu. Après des heures d'écriture, cela fait du bien. Sylvain lui dit, ah oui, c'est vrai, vous écrivez. Et votre sœur va bien ? Ma sœur ? Oh oui, elle va très bien. Il se souvenait plus qu'il avait fait la connaissance de sa sœur. Sylvain lui dit, bon, eh bien je vous laisse. Ou si vous voulez venir boire un verre chez moi,
Non, merci beaucoup. Tu vas lui dire. Ah oui, je comprends.
Vous téléphonez ?
Vous avez sûrement beaucoup à faire. Je lui réponds. Oui, beaucoup. Sylvain lui dit. Alors au revoir. Au revoir. Et Sylvain s'éloigne. Jules furieux, contre lui-même, le regarde s'éloigner. Une fois qu'il est rentré dans son immeuble, il part furieux. C'est qu'un imbécile. Un imbécile. Va croire à la façon dont je lui ai parlé, c'est que je ne veux pas le revoir. J'étais trop sec. Je l'ai perdu, c'est de ma faute. Oh mon Dieu. Et pourquoi ai-je refusé d'aller chez lui? J'ai raté la plus belle occasion. La seule, peut-être la seule occasion de voir comment était son décor, sa chambre et tout. Et pourquoi ai-je refusé? Je suis qu'un imbécile idiot. Elle était en feu. La peur de l'avoir perdue. En même temps, ne peut s'empêcher de s'imaginer sa visite chez lui. Et de revoir ce beau visage et sa démarche. Même de dos, il est beau, beau. Il se dépêche de rentrer chez lui pour pouvoir rêver en paix. Malheureusement, ses rêves sont troublés par la peur de l'avoir perdu. J'étais trop brusque. Il a dû penser que je n'avais pas envie de le voir ou que ça m'agaçait de le revoir. Et puis, il a voulu me faire plaisir en m'invitant. Mon refus a dû le froisser. Il retourne dans sa rue en ayant peur de le rencontrer. Et en même temps, il le souhaite, car il pourra savoir s'il est fâché contre lui et s'il voulait toujours de son amitié. Lorsqu'il est dans sa rue, il passe en vitesse, de peur d'être vu. Si je le rencontre, que pourrais-je lui dire? La première fois, je pouvais lui dire que je ne savais pas où il habitait, qu'il habitait dans cette rue. Mais maintenant, s'il y a des surprenants, c'est que je peux lui parler ainsi facilement et lui dire n'importe quoi. Le mensonge serait-il une chose naturelle? Je devrais avoir honte d'agir comme ça avec lui. Lui qui est si pur, qui n'a aucune arrière-pensée. Je suis sûr qu'il ne viendrait même pas idée que je suis follement amoureux de lui. Pour lui, ce genre d'amour ne doit pas exister. Il est si pur. Et avec les filles, les femmes, je suis sûr qu'il ne doit même pas connaître les choses. Il ne doit rien savoir ces choses du sexe. Un ange, un véritable ange. Jules est comme beaucoup de personnes. Lorsqu'il voit un beau visage, il pense à pureté et innocence. Pourtant, ça n'a rien à voir. Mais le symbole, le pur, est beau. Les jours passent. Notre pauvre Jules est toujours dans ce rêve amoureux. Depuis sa rencontre, il n'ose plus s'arrêter devant son immeuble, ni regarder les fenêtres. Il passe en vitesse. Un après-midi, il voit sortir de chez lui Sylvain, qu'il reconnaît et lui court après. Bonjour. Il a toujours ce beau visage, yeux bleus profonds. Bonjour. Sylvain lui demande. Tu te promenais? Oui. Moi, je sors parce que je suis tout seul. Et puis, j'ai travaillé à étudier l'électricité. Tu allais quelque part? Non, pas vraiment. Sylvain lui dit. Je peux pas t'inviter chez moi, ma mère est absente. Mais si tu veux, on peut aller dans un café un peu plus loin.
Je le souris, lui dis, oui, je veux bien. Il se dit qu'il ne veut pas gâcher sa chance. Qu'il ne doit pas faire l'imbécile. Et se jure qu'il ne saura jamais que son ami, ou non, il ne veut pas le perdre. Souiller son ami. Non. Il veut être que son ami. C'est tout ce qu'il demande. Sylvain le mène dans un café salon de thé vers l'avenue de Saxe. La salle est grande, style rococo. Ils vont s'asseoir à une table dans un coin tranquille. Il y a du monde. Un serveur vient vers eux. Vous désirez, messieurs ? Sylvain lui dit, un café. Jules, moi aussi. Le serveur s'éloigne. Jules s'est assis en face de Sylvain. C'est pour le voir sans être gêné. Sylvain lui demande, ta soeur va bien ? Oui, merci, elle est un peu bizarre, c'est la fatigue. Sylvain lui dit, oui, je m'en suis aperçu, mais elle est très belle. Et puis j'aime son côté étrange. J'aime les femmes qui ont du mystère. Pas toi ? Je lui réponds, oui. Il se dit, mon pauvre Sylvain, si tu savais ce que cache ma soeur, je suis triste de le voir s'intéresser à Apolline, cela lui prouve qu'il aime les femmes, donc ça ne pourra jamais marcher avec lui, jamais. Le serveur leur apporte leur café. Sylvain lui dit, tu as dû avoir des tas d'aventures toi avec les filles. Jules rougit, lui dit, non, pas tellement. Et moi, tu sais, les filles. Sylvain sourit et lui dit, tu sais ce que c'est ? Jules rougit. Oui, je sais ce que c'est. Sylvain lui dit, et puis tu n'as pas besoin de le dire, de dire tes aventures, puisque tu les mets dans tes écrits. Ça doit être merveilleux de pouvoir dire ce que l'on aime. Je lui dis, tu sais, si je mettais ce que j'aimais vraiment, je ne serais pas compris. Il y a des choses qu'il vaut mieux se taire, même à l'être aimé. Sylvain lui dit, toi tu es amoureux, je lui réponds. Peut-être bien, mais la personne ne le sera jamais. Tu es trop timide, faut oser. Vous êtes tous pareils, vous les écrivains. Vous avez des difficultés à vivre votre vie. Vous êtes trop dans vos rêves. Faut te réveiller et vivre. Et dis-toi bien que la vie est plus simple que dans tes rêves. Il suffit de leur parler simplement. Je suis sûr que si tu disais ton amour à la personne, elle accepterait et ne chercherait pas midi à 14h. Je lui dis, cela m'étonne. Je suis triste, car Sylvain n'est pas aussi ange qu'il ne le croyait. Il va être obligé avec lui de jouer les passionnés du beau sexe. Sylvain lui demande, à quoi tu penses ? À rien, à toi, à ta façon si directe de parler de tout. Et puis, si j'étais comme toi, la vie serait sûrement plus facile. Avec ton visage d'ange, tu peux tout te permettre. Sylvain lui dit, oh, arrête ! nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.